Informer, comprendre, agir. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire pour la planète. C'est l'heure de la chronique environnementale avec Jean-Louis Caffier.
Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et auditeurs de Studio 45. La Coupe du Monde 2026 fait rêver des milliards de passionnés de football, organisée pour la première fois dans trois pays différents, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Elle promet un spectacle gigantesque avec 48 équipes et plus de 100 matchs. Mais derrière les exploits sportifs, les stades pleins et les émotions partagées, une autre réalité se dessine, celle de son impact sur l'environnement. Selon plusieurs études récentes, cette édition pourrait devenir la Coupe du Monde la plus polluante de l'histoire, avec une empreinte carbone estimée à presque plus de 9 millions de tonnes de CO2. Alors, peut-on encore concilier passion du football et urgence climatique? Les efforts annoncés par la FIFA sont-ils suffisants? Et surtout, quel avenir pour les grands événements sportifs dans un monde confronté au réchauffement climatique? C'est que nous allons découvrir ensemble dans cette chronique environnementale. Et pour nous répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'avoir toujours à mes côtés Jean-Louis Caffier. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Romuald et bonjour à tous.
Alors tout d'abord, cette Coupe du Monde, oui, voilà, c'est l'événement de l'été.
Oui.
Mais forcément, les nouvelles ne sont pas bonnes.
Sur le plan environnement, sous cet angle-là, non, pas du tout. Elles sont même catastrophiques. Vous l'avez dit, ça sera la Coupe du Monde la plus émettrice de gaz à effet de serre, donc de dioxyde de carbone. On s'attend à un chiffre qui sera quasiment doublé par rapport au Qatar, qu'on avait justement beaucoup critiqué. Ah, oui. Il y a 4 ans, et ben là, les États-Unis, le Mexique et le Canada vont faire encore plus fort sous le sourire affiché de M. Infantino, président de la Fédération internationale de football. Vous l'avez dit, 48 équipes, forcément, ça multiplie les déplacements, surtout quand on a 3 pays différents. Quand cette Coupe du Monde va se jouer sur 4 fuseaux horaires différents avec toutes les implications qui s'y attachent, il y aura des déplacements dans tous les sens avec les équipes, les accompagnateurs et les supporters, bien évidemment, qui constituent une grande part des pollutions des avions. Et il faudra vraiment se débrouiller pour que ça ne fasse pas trop mal aux organismes des joueurs, notamment parce qu'il n'y a que 5 stades qui sont équipés de climatisation, qu'on avait là encore beaucoup critiqué il y a 4 ans. Au Qatar, et il y aura des matchs de poule pour commencer, et 48 équipes, on va quasiment toutes les garder pour les 16e de finale, parce que les deux premiers de ces groupes de 4 sont qualifiés automatiquement pour les 16e, et on prend aussi les 8 meilleurs 3e, donc ça fait quasiment personne. Il faut vraiment le faire exprès pour ne pas participer aux 16e de finale. Donc tout ça, ça fait des déplacements, ça fait du temps perdu, mais ça fait du fric à l'arrivée. Parce que tous ces matchs en plus sont destinés à offrir plus de matchs à diffuser aux télévisions, donc à engranger plus d'argent pour la FIFA. Ça se compte en milliards de dollars, hein, les bénéfices.
Et forcément, hein, j'imagine que les équipes ne vont pas lever le pied hein, pour l'environnement, malheureusement.
Ils seront peut-être un peu obligés de le faire, parce qu'on a des études qui ont été menées, notamment pour le mondial des clubs l'an dernier, qui s'était joué en partie aux États-Unis, et des études sérieuses, médicales, scientifiques, qui montrent qu'avec la chaleur, eh ben, l'organisme devient moins performant et que les joueurs eux-mêmes gèrent davantage leurs efforts pour éviter la syncope. Alors, pour répondre à cette préoccupation de chaleur, la FIFA a inventé un truc, c'est les pauses à l'intérieur des mi-temps. Il y aura 2 pauses de 3 minutes pour chacune des mi-temps des matchs. Et qu'est-ce qui va se passer pendant ces pauses très fraîcheurs? Les télévisions ne vont pas du tout diffuser les images des joueurs qui boivent un coup. Ils vont passer de la publicité. Ça fait encore
plus
du fric. Ouais. Encore et encore du fric. C'est ce que devient le football aujourd'hui. Alors, on ne veut pas être rabat-joie, bien sûr. Moi, je vais regarder, toi aussi, Romuald, les matchs. Voilà. Mais on a quand même un petit peu les boules de voir que un sport populaire comme le football devient la propriété des gros financiers, donc on en paye les conséquences avec des matchs qui vont être dilués un petit peu dans la masse. On va pas en regarder 4 par jour, ça m'étonnerait, et surtout la nuit, parce que C'est clair, des matchs qui vont être diffusés au milieu de la nuit, n'est-ce pas?
Regardez des matchs à minuit, à 3h. Oui,
la France, ça va. 21h et 23h, je crois. Et puis,
les deux matchs à 21h. France-Sénégal à 21h. France-Irak à 23h. Et Norvège-France à 23h.
Oui, ça va.
On est encore dans...
C'est dans le raisonnable.
Réalisable, ouais, c'est ça.
Alors, on sait déjà que certaines villes sont plus en risque que d'autres. Mmh. C'est vrai de Miami, Kansas City, Philadelphie, où la France va jouer un match, le deuxième. Et puis, il y aura également, c'est peut-être plus surprenant, Toronto et Vancouver, parce qu'on est en été dans le Smithsonian. Il fait chaud aussi. Là-bas, pendant l'été, on l'a vu... récemment encore, avec les gros incendies de forêt qui ont ravagé une partie du Canada. Il fait chaud aussi au Canada, plus qu'au Mexique. C'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. Donc, les études qui ont été faites par l'ONU, par le programme européen de recherche sur le climat, avaient bien indiqué, et c'était l'objet d'une précédente chronique, que l'été 2026 s'annonçait particulièrement chaud, et il le sera encore plus à la fin du mois de juin, quand le phénomène El Niño qui réchauffe les eaux du Pacifique, une certaine partie du Pacifique en tout cas, contribue à provoquer d'autres catastrophes et d'autres montées de chaleur un peu partout dans le monde.
Et puis forcément, cette Coupe du Monde 2026 va peut-être aussi devenir un modèle pour les futurs événements sportifs internationaux. On a déjà le cas, notamment avec les compétitions européenne aussi, avec notamment la Ligue des Champions, son nouveau format, avec plus d'équipes. Ça veut dire qu'on aura plus d'impact aussi en termes de CO2, que ça soit sur les déplacements, mais sur les téléviseurs. Donc aujourd'hui, c'est, on va dire, un modèle qui se fait de plus en plus dans le monde du football, mais pas que aussi.
Non, parce que toutes les équipes, les sports d'équipe sont concernés. Comment c'est organisé? Prenons la France. En France, les matchs de championnat national se font le week-end.
Et oui.
Football, basket, balle, volleyball. Et les matchs européens se font dans la semaine. Ça veut dire qu'il y a deux fois par semaine, pour toutes les équipes de France, des déplacements en avion. Parce que tous les déplacements aujourd'hui se font en avion, quelle que soit la discipline qu'on évoque. Donc il y a les équipes, il y a les joueurs, évidemment, les entraîneurs, l'encadrement, et puis il y a les supporters.
Oui.
Quand on voit plusieurs milliers de supporters qui se déplacent pour un match de Ligue des Champions, par exemple, on comptabilise à la fin, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Alors comment faire ? On a des allers-retours permanents entre, par exemple, l'Europe de l'Est pour les disciplines basket, handball, France.
C'est ça.
Tout le temps. Toutes les semaines, il y a quasiment un déplacement là-bas. Est-ce qu'on ne veut pas regrouper un certain nombre de matchs pour les faire tous dans la même période, pour éviter les allers-retours permanents des avions qui s'occupent de transporter les équipes? Il faut réfléchir à ça, parce que le sport de haut niveau n'échappera pas aux économies d'énergie qu'on va imposer à tout le monde. Il n'y aura pas d'exception, sinon ça ne marchera pas. Donc il est temps peut-être de se préparer, imaginer différemment des transports en bus notamment. Je veux dire, au lieu d'aller de France en Angleterre en avion, on peut prendre
le train,
l'Eurostar et aller loin en Angleterre jusqu'à Manchester ou Liverpool sans problème.
Les vraies questions de notre siècle, parce que forcément il faut aussi repenser à une réorganisation, notamment sur le football, que ça soit sur les enjeux climatiques mais aussi économiques. Est-ce que c'est forcément possible?
Ça c'est compliqué, hein. Il faut de toute façon limiter la consommation d'énergie, donc l'énergie c'est les transports. Sur le bilan climat du mondial, on se rend compte que 85% des émissions de gaz à effet de serre sont liées au transport, et notamment au transport en avion. 85%,
c'est beaucoup quand même.
C'est le transport en avion qui sera responsable de cette proportion énorme des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est là-dessus qu'il faut appuyer. Comment peut-on faire différemment? Mais si on met des distances aussi importantes entre les stades ou les villes qui s'occupent de la compétition, on ne va pas y arriver.
C'est ça.
Il faut faire à échelle, je dirais, à l'échelle ferroviaire.
Oui.
Donc on fait en France, on fait en Angleterre, on fait en Allemagne,
on fait en Italie. À l'époque, avec un pays d'hôte.
Bien sûr. Mais là, il y a trop d'équipes, donc il y a trop de stades aussi qui sont concernés.
C'est vrai.
Et
c'est
équiper les stades, ça veut dire de nouveau des travaux, ça veut dire de nouveau du béton, ça veut dire de nouveau des choses comme ça. Donc, les solutions ne sont pas simples. Il faudrait, comme dans d'autres secteurs, redevenir en tout cas un peu raisonnable.
Et ça va se faire en plus très régulièrement, et notamment la Coupe du Monde, là, pour les années à venir.
Mais oui, la prochaine, c'est encore mieux.
Oh, oui, plus d'équipes, notamment, avec... d'ici 2064 avec 64 équipes.
Ouais, c'est trop.
Et oui, forcément, là, on a vraiment tiré la sonnette d'alarme, devenue très, très grave.
Absolument. Mais bon, profitons-en quand même.
C'est ça, on va profiter de cette Coupe du Monde.
Allez, les Bleus et le Portugal.
Et on espère que ça promet une grande fête du football. Ah bah oui, même le Portugal.
Ça pourrait faire une finale. Hein, ça peut être
crédible. Ah bah la revanche, comme il y a 10 ans.
Oui, quasiment.
Mais est-ce que tu as un petit favori pour cette Coupe du Monde, Jean-Louis ?
Je trouve que la France est pas mal, mais je sais pas. Ça, je dirais qu'il y a une ambiance un peu bizarre. Voilà,
Didier Deschamps.
J'ai pas d'espion là-bas, mais je sais pas. On va pas faire l'Afrique du Sud, n'est-ce pas ? On va pas recommencer ça.
Oh, non, c'est
mais je sais pas. Je sens une ambiance un peu bizarre.
Tant qu'ils
enfin, la France
bus.
Fait partie des favoris. Le Portugal, moi, je les vois bien aussi. L'Argentine. Et puis, oui, peut-être l'Argentine. Une équipe plus surprise. Oui. On avait eu le Maroc la dernière fois. On a peut-être une autre équipe africaine. Pourquoi pas le Sénégal, parce que c'est notre adversaire du premier tour.
Ouais, c'est vrai qu'une surprise en Coupe du Monde, ça se fera cette année encore, oui. Comme toutes les années précédentes. On leur souhaite aux Bleus d'aller au plus loin. Pour la dernière de Didier Deschamps.
Oui, tout à fait.
Ça serait magnifique.
Grande compétition.
Une troisième étoile, on espère.
C'est pas impossible. Hein. Quand on regarde, la ligne, quand on regarde la ligne d'attaque que le monde nous envie entre Dembélé, Olysée et Mbappé, bien sûr.
Et Mbappé, oui.
Hein. On peut ajouter Doué et puis d'autres.
Franchement, on a une très belle effectif et on espère aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde. Et ben, encore merci, hein, Jean-Louis, d'avoir pu présenter encore une fois cette belle chronique et qui est encore consacrée à l'environnement et aux enjeux qui façonnent notre avenir avec des sujets d'actualité. Donc, quant à nous, chères auditrices et auditeurs, on se dit à très bientôt sur Studio 45 et vous retrouvez dès à présent cette chronique sur le podcast de Studio 45. Allez, à très vite.